Impact. Production, présentation, ML Lazim. Réalisation, Aïcha Hammer.
La communauté scientifique appelée à jouer un rôle soutenu pour lutter contre les changements climatiques. Les scientifiques, fer de lance de la recherche, devront apporter des réponses au bouleversement du climat par l'innovation, la création. La transition énergétique, l'évolution du transport, l'amélioration de la qualité de l'air supposent un soutien financier pour appliquer les projets de recherche. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU à la fin de la COP22, a appelé les donateurs pour débloquer les financements dédiés à la recherche. Les différentes disciplines scientifiques devront être mises à profit pour proposer des alternatives aux systèmes de production actuels émetteurs de gaz à effet de serre. Impact se rapproche ce vendredi de la communauté scientifique algérienne à l'occasion du premier congrès international sur l'environnement, la biodiversité et le développement durable.
Impact.
Avec nous, professeur Boudren Stambouli-Amin, vous êtes spécialiste dans les énergies renouvelables et le développement durable. Professeur Stambouli, on connaît déjà le projet de l'extraction à partir du silicium de cellules photovoltaïques en partenariat avec les Japonais a donné ses fruits. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on a des ingénieurs spécialisés dans cette discipline? Est-ce qu'aujourd'hui, nos ingénieurs sont capables de produire de la cellule photovoltaïque?
Merci, madame, pour cette introduction. Donc, réellement, c'était 5 années de dur labeur avec les Japonais. Bon, le projet SSB, Sahara Solar Breeder, c'est un projet à 3 volets. Ce n'est pas uniquement l'extraction du silicium à partir de la silice et de la diatome, mais il y a le côté évaluation des cellules solaires, plusieurs technologies dans un milieu saharien. Et il y a le troisième volet, bien sûr, dont le professeur Flazi ici présent s'occupe, c'est le transport de l'énergie à travers les câbles supraconducteurs. Bien sûr, au cours des 5 années, il y a eu des formations, parce que des priorités des Japonais et des Algériens aussi, c'est la formation de nos futurs ingénieurs et futurs diplômés. Donc il y a eu des envois de quelques étudiants de Master 2 et des étudiants aussi, des doctorants, donc qui ont fait quelques formations à partir de 2 mois jusqu'à 6 mois, jusqu'à 3 années pour la préparation d'un doctorat, donc en plusieurs spécialités. Bon, la spécialité qui prime, bien sûr, c'est l'extraction du silicium à partir de la silice, c'est-à-dire du sable, et de la diatome, dont pratiquement une réserve extraordinaire de 5 millions de tonnes se trouve au niveau à 30 km, à 50 km de rang, c'est le village de Sig. C'est important pour l'Algérie, bien sûr. C'est très très important pour l'Algérie, surtout si elle opte pour un avenir dépendant des énergies propres et nouvelles, dont le solaire qui prime, bien sûr.
Nos ingénieurs sont-ils prêts aujourd'hui à produire cette matière?
Oui, bien sûr, bien sûr. Après ces formations, il y a eu, bien sûr, un accord au préalable sur l'envoi des équipements. Donc, un équipement qui a été conçu et préparé par quelques Algériens étudiants, des doctorants, et par le professeur Itaka, qui est spécialiste en extraction du silicium. Et cet équipement se retrouve à l'USTO. C'était en juin 2015. Il a été installé et il y a eu des productions de silicium. Il y a eu des productions de silicium, c'est-à-dire des pastilles de silicium, à partir du sable et à partir de la diatome. Donc on a mis en échantillon dans des expositions telles que le Salon des énergies renouvelables, ERA 2015 et l'ERA 2016. Donc nos ingénieurs sont prêts à donner ce qu'ils ont appris, ils ont été formés pour.
Donc voilà une confirmation apportée. Maintenant, la question qui se pose, vous allez plus loin que justement que cette extraction, vous pensez même au transport de cette
Absolument.
Matière. Et là, c'est on va dire un projet tout à fait nouveau.
Absolument.
Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer de quoi il s'agit?
Oui, bien sûr. Bon, comme je l'ai précisé, c'est une des 3 volets, c'est le transport de l'énergie. Parce qu'on produit de l'énergie, il faut le transporter. Mm-hmm. Il faut l'acheminer d'un point A vers un point B. Il y a plusieurs méthodes, plusieurs moyens de transport. Mais le transport à travers les câbles supraconducteurs, ça c'est l'avenir. C'est à l'horizon 2050. Il y a eu la première station de 200 mètres qui a été réalisée au niveau de l'université de Chubu, dont on a une convention signée en mai 2015, qui a été signée par professeur Deldour, et bien sûr avec la collaboration de notre laboratoire, le laboratoire de génie électrique d'Oran. Alors, ça c'est, on commence toujours par le concept fondamental, apprendre ce que c'est le câble supraconducteur, et bien sûr former nos ingénieurs futurs dans le thème supraconducteur. Parce qu'il n'y a pas... Peut-être que c'est un ensemble de théories qui sont données à travers des cours, de masters, peut-être à travers des préparations pour le doctorat, etc. Mais réaliser et faire la conception d'un système de transport à base de câbles supraconducteurs, ça reste toujours quelque chose de difficile. Mais, alhamdoulilah, on apprend. En forme, il y a un étudiant doctorant chez nous, au laboratoire, M. Bouzid Mohamed, qui a fait 2 mois au Japon, à l'université de Chubu. Il a aussi travaillé dans le système, enfin le système qui a été réalisé, le premier système au monde, c'est-à-dire 200 mètres de câbles supraconducteurs à différentes géométries. Donc il a travaillé, et Inch'Allah, c'est lui qui va essayer d'adopter cette technologie au niveau de notre laboratoire et pourquoi
l'adopter
pas au niveau
et même l'enseigner.
Absolument.
Former les jeunes dans ce domaine.
C'est ça notre propos. C'est ça notre propos. Et bien sûr, le professeur Flazi est le responsable technique de cette discipline.
Très bien. Alors, je m'adresse à vous, professeur Flazi Samir. Vous êtes aussi spécialiste des énergies renouvelables. Vous travaillez dans le réseau électrique haute tension. Professeur Flazi, quand on dit câble supraconducteur, qu'est-ce que ces câbles supraconducteurs pourront nous apporter? Comment essayer d'expliquer l'importance de développer justement ces câbles-là?
Oui. Bon, merci. Quand on produit l'énergie électrique, normalement, on le produit un peu loin de consommateurs. Et dans le transport, il y a des pertes électriques. Qu'est-ce que vous avez ? C'est une perte d'énergie. Et actuellement, dans les lignes actuelles, haute tension, quand on fait transporter l'énergie électrique de 2000 km, les pertes, il est pas moins de 15%. Donc on perd dans les lignes 15% de l'énergie produite. L'avantage des câbles supraconducteurs, c'est justement ça. C'est-à-dire, dans les câbles supraconducteurs, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte électrique
donc
sous forme
de
chaleur.
Donc, pas un surcoût, on va dire. Déjà, on gagne du gain dans le coût.
On gagne dans le coût, on gagne dans l'énergie produite. C'est-à-dire, l'énergie produite, l'ensemble de l'énergie produite, à peu près, hein, il arrive côté consommateur. Et non seulement ça, là aussi, on peut transporter l'énergie à des distances très importantes. Mais là, c'est un peu le projet de 2050, c'est-à-dire connecter les continents.
Comment voyez-vous ce projet en 2050 et comment on peut...
Je crois qu'il faut se préparer pour ça. Il faut se préparer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire rentrer cette connaissance à l'université, dans la formation des ingénieurs, dans les laboratoires de recherche, pour qu'on puisse se préparer pour ça.
Alors, je reviens justement à l'utilité de ces câbles et l'importance de ces câbles plus tard. Qu'est-ce que ça va changer dans notre quotidien de 2050 ?
Ça change beaucoup de choses. Parce que la chose la plus importante, c'est qu'on peut connecter le Japon, par exemple, ou bien la Chine, avec l'Algérie.
C'est-à-dire, différentes connexions.
C'est-à-dire... quand il fait beau, quand il y a du soleil, en Algérie, on peut produire et transporter l'énergie à l'autre moitié de terre. En Chine, par exemple, ou bien au Canada, entre parenthèses. Et c'est l'inverse. Donc, on n'a pas besoin des batteries. On n'a pas besoin des systèmes d'accumulation. Parce qu'on produit là, il y a du soleil. Pour consommer, là, il fait nuit.
D'accord.
Voilà.
C'est l'interconnexion.
Ça, c'est l'un des
de toute
avantages.
La planète.
Deuxième avantage, un câble supraconducteur, il peut remplacer 3 lignes aériennes.
Oui.
Donc on peut en débarrasser des lignes aériennes que vous voyez qui influent sur la beauté de la nature et la nature elle-même, et la circulation, le risque, etc.
Et là, on est vraiment dans l'énergie propre.
L'énergie propre, c'est la production. C'est-à-dire, on peut maintenant produire l'énergie propre, l'énergie solaire au fond de Sahara, au milieu de Sahara, et transporter avec les câbles supraconducteurs. Actuellement, on peut transporter avec les lignes aériennes en courant continu, qui sont un peu plus économiques au point de vue perte, c'est-à-dire les pertes électriques, il est moins important que les lignes alternatives, mais il y a toujours des pertes autour de 10%. Vous voyez, c'est-à-dire 10% pour 2000 km. C'est une grande énergie perdue.
Le coût justement de votre projet et l'application de votre projet, parce que effectivement les chercheurs, enseignants innovent, sont dans la recherche et l'application. Après, qui peut soutenir financièrement ces projets?
Ce projet, il sera soutenu par le gouvernement japonais et le ministère, c'est-à-dire le ministère d'enseignement supérieur.
Donc, ce sont les deux partenaires qui vont vous aider à appliquer, à développer, on va dire, ce projet.
À développer le projet, à récupérer des équipements, à, oui, et envoyer des stagiaires au Japon pour travailler dans le laboratoire.
Il serait souhaitable de faire intervenir dans les financements le privé, le public, l'État, les associations. Qui peut vous soutenir financièrement pour appliquer ce procédé?
L'application, c'est une étape ultérieure.
Mais qui va venir.
Qui va venir, oui. On souhaite, bien sûr, on souhaite. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas que ramener les câbles après l'année 2050, ramener des câbles clés à main.
Mmh, d'accord.
On veut participer dans le développement des câbles, former bien comme il faut les ingénieurs et les chercheurs pour qu'on puisse après, c'est-à-dire peut-être c'est pas fabriquer les câbles, mais exploiter correctement.
Donc vous êtes en train de préparer 2050.
Exactement.
Impact.
Madame Benharrat Nassera, vous êtes rectrice de l'Université d'Oran et vous avez, avec l'Association des scientifiques algériens, préparé ce congrès de deux jours, un congrès international dédié à la biodiversité, au développement durable. Donc c'est une université qui bouge, c'est une université qui dépasse un peu la théorie et qui veut aujourd'hui peut-être appliquer les domaines de recherche. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer, nous dire l'opportunité de ce congrès?
Bonjour, petite rectification, je ne suis pas rectrice de l'Université d'Oran, je suis rectrice de l'Université des sciences. C'est de la technologie d'Oran.
Alors justement, oui, tous les enseignants ont tenu à m'apporter cette précision.
Non, c'est pour les auditeurs, c'est important parce que Oran est une grande ville qui dispose de 3 universités et de 5 écoles. Donc pour l'université, nous sommes une des 3 universités d'Oran. Et donc, nous sommes Université des sciences et de la technologie d'Oran. Et il est tout à fait normal que les sciences et la technologie se mettent au service de l'environnement, au service de la, d'abord au service du pays, de l'économie du pays et au service de l'environnement, donc au service de la planète. Nous avons donc tenu à ce que ce congrès se fasse en parallèle avec la COP22. Parce que c'est un événement planétaire, ce n'est pas un événement qui passe inaperçu, c'est toute la planète qui, en ce moment, s'intéresse et a les yeux rivés sur l'environnement et sur la préservation de cet environnement. Quand je dis environnement, c'est l'environnement dans toutes ses dimensions. Je l'ai dit tout à l'heure, air, mer, terre. Donc il faut préserver cet environnement et d'où la biodiversité n'est que la victime des méfaits qu'a apporté l'homme à l'environnement. Donc bien sûr, nous avons des projets, nous avons beaucoup de projets dans l'environnement. Donc ce congrès se tient avec les jeunes chercheurs, enfin les chercheurs, les enseignants-chercheurs de l'USTO qui sont constitués en association. En association pour faire de la science, je dis bien, en association pour unir leurs efforts, pour coordonner leurs efforts, se constituer en réseau scientifique, ils n'ont pas autre association comme on l'entend. Donc c'est une excellente chose qu'ils aient programmé ce congrès. De le faire coïncider avec la COP22, c'est pour profiter d'un maximum de publicité et pour faire arriver leur message au niveau, je dis bien, au niveau du citoyen. Parce que le premier pas, c'est le citoyen. La préservation de l'environnement commence déjà par le citoyen, à l'échelle individuelle, et ensuite elle devient à l'échelle d'un petit groupuscule qui peut être un quartier, et ensuite une ville, et ensuite le pays, et ensuite c'est toute la planète. Voilà. Voilà pourquoi nous avons tenu à le faire en cette période de l'année, donc en parallèle avec la COP22. Et puis, bon, pour les projets dans lesquels nous sommes embarqués, bon, vous avez eu le professeur Flazy et le professeur Boudren qui vous ont parlé du projet SSB, qui, lui, a été donc dans la préservation. C'est le premier projet sur le solaire. Donc, nous avons commencé à travailler pendant 5 ans avec un consortium d'universités japonaises sur le développement des énergies propres. Nous continuons. Nous allons entamer donc la suite de ce projet. La suite de ce projet, c'est 2 projets. L'un pour le développement de la fabrication du silicium. Nous avons pu extraire du silicium à 99,9% de taux de pureté au niveau de l'Université des sciences et de la technologie d'Oran. Et le 23, nous allons signer, justement, pour la commercialisation du process, nous allons signer une convention avec la Direction générale de la recherche scientifique et donc de la DGRSTT à Alger Nous allons signer une convention pour justement mettre en contact et faire donc embarquer le centre de recherche sur les techniques du silicium, le CRTS, avec nous. Donc nous allons travailler dans en commun accord, parce que travailler seul sur un projet, c'est avoir la garantie de ne pas le faire aboutir. Avoir, quelle que soit l'importance des résultats trouvés, auxquels on arrive, on a la garantie que si on reste chez soi, seul, et si l'on vit en autarcie, personne n'entendra parler de ce projet. Bon, maintenant, nous avons la technique, la technologie, nous l'avons, nous la maîtrisons, nous la mettons au service d'abord du pays, et qui mieux est placé que la Direction générale de la recherche donc à Alger, avec ses centres de recherche sur les technologies du silicium, pour déjà développé à l'échelle nationale et ensuite pour la commercialisation et au niveau international. Voilà.
Au-delà donc, du silicium de ce projet, est-ce qu'il y a d'autres projets en gestation ou qui sont déjà prêts?
Déjà, donc, ce sont deux projets que sur lesquels nous sommes embarqués avec le Japon. Il y a d'autres petits projets qui, donc, au niveau de la faculté de sciences de la nature et de la vie, il y a le laboratoire de génétique moléculaire qui travaille sur ça. Il y a le laboratoire de biotechnologie végétale qui travaille énormément sur la préservation de l'environnement, et de la biodiversité, sur la préservation de la biodiversité. Donc, Madame Fache, la directrice du laboratoire, est très active avec son équipe en matière de préservation de la biodiversité.
Justement, sortir de l'université et maintenant on est dans l'application de tous ces travaux de recherche. Justement, avec vos compétences et vos chercheurs, comment vous pouvez être sur le terrain et agir contre ce qu'on constate aujourd'hui, la dégradation un petit peu de nos milieux marins et même de la faune et la flore? Comment vous pouvez intervenir?
On intervient d'abord au niveau des curricula, au niveau des programmes.
D'accord.
Donc d'abord au niveau des enseignements, pas seulement dans les filières spécialisées, mais dans toutes les filières des sciences et de la technologie, il y a donc les unités transversales dans lesquelles nous développons les procédés technologiques de préservation de l'environnement, quel que soit, c'est le recyclage. Nous collaborons avec le ministère de l'hydraulique. Donc ils sont dans les stations d'épuration, ils sont dans les forêts pour la préservation de la biodiversité, donc des souches, de certaines souches qui sont en voie de certaines espèces en voie d'extinction. Et nous sommes bien sûr sur les terrains, mais bien sûr de façon très limitée. Nous sommes un petit effectif, donc on ne peut pas investir le terrain, mais nous faisons tout pour faire entendre la raison aux citoyens, qui est le premier pollueur.
Oui.
Donc ce sont des petits gestes sur lesquels nous travaillons, mais d'un autre côté, nous sommes aussi sciences et technologies, nous développons des procédés à mettre à la disposition donc du pays pour la préservation de l'environnement et pour bien sûr faire ce bond tant attendu à notre économie.
Madame Benharat Nassera, vous faites de la publicité pour votre université. Est-ce que vous allez vers les partenaires privés, les partenaires publics? Est-ce que vous tapez à toutes les portes pour essayer de, on va dire, d'abord d'attirer des financements, de faire accompagner vos projets pour qu'ils soient concrétisés?
Tout à fait, bien sûr, je suis très très fière de cette position, de cette université qui m'a formée, dans laquelle j'ai été formée. Je suis ingénieure USTO et je suis donc l'enfant de cette université, et il est tout à fait normal que je la défende, mais indépendamment du fait d'être sa rectrice, je suis passionnée par cette université. Donc je suis une passionnée de recherche, mais une passionnée de l'USTO. Et bien sûr, je n'hésite pas à utiliser tous les moyens nécessaires pour nous faire connaître. Donc nous invitons le partenaire socio-économique. Nous organisons régulièrement des rencontres avec le partenaire socio-économique. Donc nous sommes partenaires dans beaucoup de projets avec des entreprises. Bien sûr, tout le tissu socio-économique avoisinant, nous essayons de le toucher d'abord, pas seulement pour nous faire connaître, mais pour être à son service. Là, nous travaillons avec beaucoup d'entreprises locales. Nous faisons de la formation. Au-delà de la formation, nous faisons donc des échanges avec les entreprises. Nous essayons de former pour eux. Il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois, nous avons signé avec General Emballage pour former pour eux, pour leur usine à Hasselheimer. Là, il y a Tocial, un groupe multinational pour lequel nous allons aussi signer, avec lequel nous allons signer une convention pour la formation. Donc, nous essayons d'abord de servir l'économie, et en faisant, bon, donc le premier pas que nous faisons dans le service de l'économie, c'est d'abord de former utile de former bien et de former efficace. Les étudiants qui vont sortir de la promotion pour Général Emballage vont être sur le terrain, ils vont être formés par nous, mais pour eux. Et pas par nous seulement, ils sont par nous et par eux, parce qu'ils participent à la formation. Ils participent à la formation théorique et ils participent à la formation pratique de ces étudiants qu'ils vont récupérer et qu'ils vont injecter directement. La même chose, nous la faisons avec beaucoup d'entreprises. Nous sommes en contact aussi avec le groupe du FCE. Nous allons très bientôt signer une convention avec le forum des chefs d'entreprise au niveau d'Oran, pour commencer, au niveau local, parce que nous commençons par le service à la cité, le service d'abord à Oran, le service à l'économie locale et nous l'étendons bien sûr à l'économie nationale. La Générale Emballage avec laquelle nous avons signé est à l'autre bout d'Algérie, elle se trouve à Béjaïa. Donc nous ne nous contentons pas seulement de l'économie locale. Là, l'économie locale, nous avons bien sûr toute la chambre de commerce, la bourse de sous-traitance. Nous faisons de la formation depuis des années déjà pour le groupe Lafarge. Donc, puisqu'ils sont implantés à proximité de chez nous. Et bien sûr, nous nous étendons au niveau national, bon, cela sans parler des conventions internationales. Mais pour servir l'économie immédiatement, donc, c'est d'abord le tissu industriel et socio-économique avoisinant. Donc voilà, bien sûr que Lusto se met au service de la société, au service de sa ville et au service de son pays d'abord.
Impact.
Professeur Pierre Clastre, la première question qui interpelle les auditeurs qui nous interpellent aujourd'hui, on parle de développement durable, on parle de la recherche scientifique dans le domaine de l'environnement. Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou c'est vraiment une tendance aujourd'hui qui est bien partie? C'est votre sentiment que je demande tout d'abord.
Ce n'est plus une vue de l'esprit. C'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, on passait pour des... Vous imaginez, on n'était pas bien accueillis dans ces pays. On était pris pour des gens qui avaient des préoccupations de riches, en fait. Hein. Et puis nous, les pauvres, vous allez, bon. Donc, mais je pense que depuis là, il y a eu conscience générale et c'est autre chose. Alors le but de l'opération, enfin l'environnement, le développement durable, c'est quoi exactement, précisément? C'est maîtriser les impacts environnementaux liés à la production de matériaux, de produits, voire même de services. Maîtriser les impacts environnementaux, essayer de les limiter. Et les impacts environnementaux, c'est quoi? C'est le prélèvement sur les ressources naturelles, c'est le dégagement de CO2, c'est l'écotoxicité, etc., etc.
Donc c'est ça, c'est important. Les experts se sont rendus compte de ces impacts négatifs récemment ou a commencé à observer ce phénomène depuis un bon bout de temps.
Il y a eu des précurseurs dans les années 1960, je me souviens, il y a eu des précurseurs, le professeur Le Breton notamment, qui a beaucoup travaillé sur la biodiversité, mais à l'époque, ils étaient pris pour des activistes, des anarchistes presque. Oui. Et depuis, ça a bien évolué.
Le temps vous a donné raison.
Et oui. Hélas.
Alors justement, en parlant de durabilité des constructions, c'est vrai que c'est un mot un peu barbare pour l'auditeur, mais aujourd'hui on parle de durabilité des constructions, il y a d'autres terminologies pour chaque spécificité. Est-ce qu'on pourrait comprendre déjà comment est-ce que, avec les matériaux de construction, on pourrait recycler, on pourrait limiter les dégâts, on pourrait valoriser aussi les produits?
Travailler sur la durabilité des constructions, c'est aussi limiter les impacts, parce qu'en fait, plus vous augmentez la durée de vie d'un produit, d'une structure, d'une construction, et plus vous limitez les impacts également. Donc il faut aussi travailler à cela.
Vous pouvez nous expliquer justement comment?
Mais le laboratoire auquel j'appartiens, il s'appelle Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions à l'Université de Toulouse. Le but de ce laboratoire, c'est de faire des recherches pour essayer d'analyser, maîtriser les agressions éventuelles, alors extérieures, ça peut être des agressions chimiques, des agressions biologiques, des agressions mécaniques, qui agissent sur les constructions et les structures et qui ont pour conséquence de limiter leur durée de vie. Donc il s'agit d'essayer de comprendre le fonctionnement pour essayer d'augmenter la durée de vie On connaît tous l'exemple des centrales nucléaires en France qui ont été prévues pour 30 ans,
oui.
qui sont portées à 40 ans durée de vie, et on va essayer de les porter à 50 ans. Mais ça nécessite un entretien, ça nécessite aussi au départ d'avoir prévu quand même une durée de vie suffisante.
Alors justement, on parle de durabilité des constructions. Qu'est-ce qui pourrait limiter à cette durabilité?
Pour les constructions en béton, par exemple, vous avez une cause de durabilité. Une cause affectant la durabilité, c'est la corrosion des armatures. Donc la corrosion des armatures est liée au problème d'agression chimique, notamment par les chlorures.
D'accord. Hein,
ça, c'est bien connu. Comment faire? Essayer de construire durable. Construire durable, ça veut dire construire en suivant des prescriptions qui permettent de limiter, non pas les agressions, parce que de toute façon, elles existent, mais les conséquences des agressions.
Donc, vous agitez sur le matériau. Vos
Exactement.
Travaux de recherche, c'est développer des matériaux plus...
La conséquence, c'est d'essayer de trouver des matériaux qui soient plus résistants, plus durables, ou d'essayer de formuler des systèmes constructifs, parce qu'on peut agir sur le matériau, mais il faut savoir que le matériau, il rentre dans une structure, dans un système constructif. Donc, on peut aussi agir sur le système constructif, sur l'épaisseur du matériau notamment, la quantité, etc.
En 2050, comment est-ce que vous voyez la construction en général dans le monde?
Construire durable, c'est construire pour une durée de vie suffisante. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, construire pour une économie de construction, une économie d'entretien suffisante. Je parle par exemple des problèmes thermiques. Construire durable, c'est aussi construire des constructions qui ont une isolation thermique suffisante pour justement limiter les consommations énergétiques. Ça fait partie aussi de la construction durable, hein, essayer de limiter. Donc on travaille sur le matériau pour essayer d'avoir une bonne isolation thermique, mais ce n'est pas suffisant. Il faut travailler sur la structure, parce que c'est la structure, elle, qui doit être isolante.
Alors la recherche scientifique dans ce domaine-là, elle avance?
Oui, bien sûr. On a des recherches sur les matériaux et sur les systèmes constructifs. Il y a des collègues à l'Université de Toulouse qui travaillent sur des matériaux qui sont susceptibles d'avoir des coefficients d'isolation thermique beaucoup plus importants que ceux qu'on connaît actuellement.
Dans l'accord de Paris, il est stipulé une clause où on parle de transfert technologique. En tant que scientifique, le transfert technologique inter-pays est une question réelle.
Bien sûr, les progrès technologiques se diffusent facilement et de plus en plus vite. Dans le bâtiment et les travaux publics, il y a une sorte de mondialisation. D'abord parce qu'il y a des grands groupes internationaux qui interviennent un peu partout. Hein, vous avez beaucoup les Chinois ici en Algérie, mais bon, vous avez des grands groupes européens qui interviennent un peu partout. Et au niveau des cimentiers, qui est quand même le matériau de base, béton et ciment, c'est le matériau de base pour le BTP, encore actuellement, ben vous avez que quelques gros cimentiers mondiaux, dont certains interviennent aussi en Algérie. Donc la diffusion des connaissances, elle est rapide. Le transfert technologique est très rapide.
Mais elle se fait, cette diffusion?
Elle se fait, bien sûr. Les cimentiers actuellement sont actifs, puisque le ciment, vous le savez, c'est un matériau qui génère beaucoup de CO2. Hein, à peu près 6% des CO2 industriels est lié au ciment. C'est pas rien.
Oui, mais ce ciment-là, le ciment de demain sera non...
Alors, le ciment de demain, on y travaille en recherche. Je suis ici dans le cadre d'un projet hubercurien Tassili qui travaille sur les éco-liants avec le professeur Cassimi de Lustau. Donc, on y travaille. On essaye de promouvoir des ciments qui sont plus respectueux de l'environnement. Donc, en essayant d'introduire davantage de déchets, de sous-produits industriels pour limiter les prélèvements sur les ressources naturelles et en essayant de limiter la consommation énergétique et le relargage de CO2 en essayant de travailler aussi un petit peu sur le process.
Je me tourne à présent vers le professeur Jesús Manuel Anzán de la Carte. Il est professeur à l'Université de Zaragoza, Faculté des Sciences, département de chimie analytique en Espagne. Professeur, vous aussi, vous êtes dans le domaine de la recherche et vous avez des techniques qui, à long terme, travailleront dans le sens de limitation de l'impact négatif du CO2 dans la nature.
Good morning, merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup à l'Université de Oran. My research is about the lasers, and nous avons utilisé les lasers pour la détermination des métaux In the plastic, for example.
Donc, Monsieur Jesus Antano, Jesus Manuel Antano Lacarte, donc c'est un professeur à l'université de Saragossa. Donc, ce qu'il avait dit en général, c'était donc il a présenté les avantages de la technique laser-induced beam down spectroscopy. Il dit que c'est une technique qui est simple, rapide et portable. Donc, l'échantillon, il est analysé en tant que solide. On n'a pas à le détruire. On préserve sa particularité et toutes ses informations. Et aussi, il a parlé aussi de la possible collaboration avec l'université de Lusto Mohamed Bodiev. Donc, il a aussi parlé des principaux gros travaux de recherche qu'il a réalisé. Il dit que ce n'était pas une technique qui était très nouvelle dans le domaine de spectroscopie, mais c'est une technique qui est nouvelle dans la protection de l'environnement, dans l'environnemental. Donc, ils ont fait des applications sur l'analyse dans les plastiques, dans la migration des métaux, dans l'emballage, et aussi ils sont en train de travailler actuellement sur les particules métalliques, c'est-à-dire la pollution de l'air atmosphérique. Donc, ils sont aussi intéressés dans ce domaine pour voir la possibilité de l'impact de la pollution au niveau de l'Algérie qui peut être qui peut affecter par suite leur pays. Donc ils sont bien intéressés, c'est-à-dire le taux de pollution, il est à combien et sa provenance en Algérie.
Nous pouvons réaliser l'analyse à distance. C'est portable. This is very very new, and we have some quelques publications about this instrument.
Impact.
Docteur Lotfi Ben Salah Talet, vous êtes enseignant chercheur et vous travaillez dans la ressource marine. Au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu d'actualité, nos ressources marines sont en voie de disparition. Le dernier rapport du GIEC montre que les coraux, le blanchiment des coraux est une alerte assez importante pour pouvoir entraîner une action au niveau de l'ONU, au niveau des décideurs et au niveau des gouvernements. Donc le changement climatique a un impact sur la biodiversité, sur nos ressources marines. Vous êtes justement en train de travailler dans ce domaine. Quelles sont vos conclusions?
Merci beaucoup, madame. Je remercie mes collègues ici présents. Tout d'abord, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'environnement. Comment savoir si notre environnement est en bonne santé ou en mauvaise santé? C'est à travers les êtres vivants. Donc, il faut toucher aux êtres vivants, ce qui dit être vivant, des biodiversités. Mmh. Et on ne peut pas parler de biodiversité sans développement durable. Or, la définition d'un développement durable, c'est d'assurer une qualité de vie pour les générations futures. Ce n'est pas en 10 ans ou en 20 ans, c'est au-delà de 50 ans. Donc, la biodiversité reste la pièce maîtresse de tout ça. Donc, vous avez parlé à travers les ressources marines, ce n'est qu'une biosphère parmi tant d'autres. Mmh. Il y a l'air, le sol et les ressources aquatiques, y compris l'eau douce et l'eau marine. Donc, à travers les débarquements de poissons qu'on voit, donc le poisson se fait de plus en plus rare. Quelque chose qui est rare devient de plus en plus cher. Mmh. Donc le poisson, d'ici quelques années, on le verra uniquement au musée.
Déjà, il se raréfie.
On le verra au musée. Ah. Les générations futures le verront au musée. C'est quelque chose de cher, intouchable. Donc il faudrait penser tout d'abord à inventorier les espèces pour pouvoir parler de biodiversité. C'est ce qui fait qu'on a plusieurs équipes. Ce n'est pas qu'à l'échelle de mon laboratoire. Donc, j'appartiens à un laboratoire de l'Université d'Oran qui s'occupe de tout ça. Donc, il y a des laboratoires qui s'occupent de la biodiversité végétale. Il y a l'ornithologie, tout ce qui est oiseaux, oui, tout ce qui est entomologie, les insectes, les mammifères marins, il y a les poissons. Donc, la biodiversité, elle touche toutes les biosphères.
Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un constat? Où est-ce qu'on en est?
Certainement, on est toujours à la première étape, c'est d'inventorier les espèces. Pour pouvoir déterminer si on a des espèces endémiques propres à la région ou bien on a un autre phénomène qui se relie directement au réchauffement climatique, c'est les espèces envahissantes. C'est des espèces qui ne sont pas endémiques de la région, mm-hmm, qui vont envahir et chambouler tout l'écosystème.
Est-ce que vous avez constaté
Oui, il y a pas mal d'espèces marines déjà. On ne connaissait pas l'existence il y a 10 ans ou 15 ans de ça. Donc le réchauffement climatique, il est là, à travers les espèces, mm-hmm, donc qui ne sont pas comestibles, toxiques parfois. L'exemple de la taxifolia, qui est une algue marine qui n'est pas consommée par l'écosystème, elle fait pas, ce n'est pas une partie intégrante de la chaîne trophique.
D'accord.
Qui ne fait que, si on veut le jargon scientifique, elle ne fait que bouffer l'oxygène de nos mers et nos océans. Mm-hmm. Donc ça va vraiment chambouler l'écosystème. Donc c'est ce qu'on appelle des espèces envahissantes. Ça va occuper la place d'autres espèces et prendre de la place et une ampleur qui... Et malheureusement, dans le cas de plusieurs espèces, c'est irréversible. On ne peut pas revenir, si ce n'est avec beaucoup de moyens humains, financiers, pour pouvoir éradiquer la prolifération. Je n'ai donné qu'un exemple parmi tant d'autres.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple qui touche le citoyen, pour qu'on puisse comprendre l'ampleur?
Il faudra sensibiliser le citoyen. Il n'y a pas que le scientifique qui joue un rôle important.
Est-ce que vous pouvez nous donner un fait qui prouve que justement la biodiversité, que le changement climatique influe et qu'on peut le voir, qu'on peut le constater?
C'est à travers la sensibilisation du citoyen. On a recours à des associations culturelles, scientifiques, sportives, auxquelles on va ajouter notre apport scientifique.
Mais le citoyen lambda ne comprend pas ces changements-là.
Non,
on ne voit rien à l'œil nu, on ne comprend rien, on ne constate rien.
On a un petit projet, c'est de l'île Plane, qui se situe à 7 km de la côte. Donc c'est une île qui est proche. Et là, c'est un point chaud de biodiversité qu'on essaye de protéger. Il y a pas mal d'associations qui ont essayé de la nettoyer à maintes reprises.
Oui.
Déjà des déchets solides, liquides, des déchets de béton. Donc, il y a plein de déchets. Il y a des plongeurs que je remercie au passage. Sans eux, on ne peut pas faire ce travail. Donc, on aura un invité par la suite, demain. C'est un conférencier qui parlera en détail de tout ça. Donc, ils ont nettoyé pour pouvoir faire un inventaire. Donc, déjà, c'était dans un état lamentable. On essaye de protéger ce joyau de la côte oranaise à travers la sensibilisation du citoyen, du scientifique et bien sûr des décideurs.
Est-ce que on a perdu Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire aujourd'hui si on a perdu ou pas?
Oui, on a. C'est ce qu'on parle.
Espèces,
le terme nouveau qui s'utilise maintenant, c'est l'érosion de la biodiversité. Bien sûr, la nature, elle a horreur du vide. Il y a des remplacements. C'est des espèces qui disparaissent, c'est des espèces nouvelles qui apparaissent. C'est dans la nature. Elle-même. Mais parfois, c'est l'anthropisme, c'est l'homme qui participe à tout ça. Donc, c'est des dégâts qui sont irréversibles. C'est des espèces qui partent pour ne jamais revenir.
Oui. Alors, vous avez travaillé pour les ressources marines.
On essaye de coopérer avec d'autres équipes qui travaillent sur les
forêts, sur...
Voilà. Puisque l'île Plane est une île, donc il y a une végétation. Donc, on a fait appel à des spécialistes en botanique. Mm-hmm. L'ornithologie, on a fait appel à des spécialistes aussi. Donc, il y a eu dernièrement une publication en 2014. L'île Plane est parmi les îles où il y a une... ça a été déclaré, où il signale dans son article que c'est la plus grande colonie du faucon d'Éléanor. Donc, c'est un rapace qui nidifie sur cette île. Donc, il a trouvé un endroit adéquat pour nidifier. Donc, si on n'arrive pas à protéger ce point, donc ça serait dommage de perdre une aussi belle colonie de faucons.
Et donc, aujourd'hui, effectivement, la sensibilisation est de mise. Vous travaillez donc avec les associations, mais alors le citoyen est donc acteur.
Donc, il est sensibilisé en un deuxième lieu. Donc, à travers plusieurs associations, il y a maintenant la médiatisation. Mm-hmm. D'ailleurs, je vous remercie pour votre émission. La radio, elle va participer. Il y a l'outil Internet. Et plus les pages de médiatisation telles que le Facebook ou le YouTube. Donc, il y a pas mal de vidéos. Donc, plusieurs associations ont des pages qui vont relater toutes ces actions.
Alors, la première action qu'il faut ne pas faire?
Ne pas jeter de déchets, tout simplement. Quel qu'il soit, la nature, solide, gaz, liquide, ou bien penser à des matériaux, comme l'a dit le professeur auparavant, biodégradables, qui ne pourraient pas léser
professeur,
notre environnement si cher.
Professeur Pierre Clastre, je crois que vous acquiescez. La première chose à ne pas faire, c'est ne pas jeter.
Non, je pense que ce n'est pas lui qui gère.
Non,
ça fait une dizaine d'années que je viens en Algérie. Effectivement, ça frappe l'esprit de voir ces champs entiers recouverts de déchets plastiques. Pas plus tard qu'avant-hier à Oran, même à côté de la Casbah d'Oran. Mm-hmm. Hein, le Ksar, là, le vieux Ksar, là, les Turcs, il y a énormément de déchets. C'est un vrai dépotoir.
en pleine ville.
Le déchet est le premier responsable de ce dérèglement climatique.
Ah, je sais pas, non, mais je veux dire, il faut commencer par ça aussi. Hein, ça fait partie de l'ensemble. Hein. Voilà.
Donc c'est un des facteurs, on va dire.
C'est des choses faciles à faire, ne pas jeter par terre ou sur la chaussée.
Encore moins les plastiques, vous allez dire.
Utiliser les poubelles, etc. C'est
par leurs citoyens.
Voilà.
C'est ça. Et c'est dans ce sens que nous avons dit qu'il fallait commencer par le citoyen. Parce que, à regarder tous ces sachets bleus qui nous obscurcissent la vue et la vie, donc je pense qu'il est tout à fait normal. C'est pour ça que je dis que le premier pas doit être fait par le citoyen. C'est l'école, c'est le citoyen, c'est la maman, c'est le papa, c'est tout le monde qui doit mettre, exactement, c'est tout le monde qui doit être conscient de cette situation parce que ça les dérange dans leur vie quotidienne. Ça nous dérange dans la vie quotidienne et dans la vie future.
Oui.
Donc tout à fait, quand on voit le scandale des sachets,
oui.
Donc normalement, c'est une prise de conscience collective et qui doit aboutir à la fin de cette situation. Donc, mais d'abord, on commence par le citoyen. Et ensuite, j'espère que les institutions et le gouvernement aient conscience. Maintenant, il faut trouver la solution pour mettre fin à ce scandale.
Pour rajouter là-dessus, en fait, en France et sans doute en Europe, les sacs plastiques vont être interdits, oui. Sont en train d'être interdits. Par exemple chez les supermarchés, etc.,
oui.
Et remplacés en partie par des sacs papier biodégradables. Donc c'est peut-être aussi, là aussi, une solution qui interpelle directement les pouvoirs politiques.
Oui.
Il n'y a pas que les poubelles et les...
Oui, tout à voilà. Fait.
Impact.
Je m'adresse au professeur Bendrawa Abdelaziz. Vous êtes chimiste de formation, vous êtes professeur à l'USTO, comme tient à le préciser madame la rectrice. Et vous travaillez dans le déchet et la valorisation, mais vous êtes aussi présidente du congrès que vous avez organisé pendant 2 jours. Aujourd'hui, les déchets et la valorisation. On peut optimiser les déchets, n'est-ce pas? Et on peut en faire quelque chose de positif.
Oui, merci madame. Donc le problème des déchets, c'est un domaine qui est crucial. Donc, sa valorisation, elle est importante, surtout dans les temps actuels où le monde il est en crise. Donc, il faut chercher d'autres ressources telles que c'est-à-dire la valorisation de ces déchets. Donc, même les pays les plus développés ont été développés, bien sûr, par la valorisation de leurs déchets.
Quand on parle de valorisation de déchets, à quoi on pense?
C'est-à-dire considérer que ces déchets, c'est une matière première secondaire.
Mm-hmm.
Matière première secondaire, telle que, par exemple, si on recycle les plastiques, donc, et on va économiser des milliards de dollars, ou bien des tonnes et des tonnes de pétrole. Donc, c'est pourquoi on essaye de les valoriser et d'exploiter tous ces déchets solides, par exemple solides, tels que les bouts de stations d'épuration, c'est-à-dire, et les transformer en matière qui sera utilisable, telles que les matières de construction, par exemple. Donc, nous, dans notre université, on a quelques chercheurs. C'est-à-dire qu'on fait ces travaux. Donc, on a essayé de valoriser pas mal de boues, c'est-à-dire de stations d'épuration, et les boues huileuses, par exemple, dans l'industrie de pétrole, telle que la raffinerie. Et même certains boues, on les utilise comme fertilisants, malgré que l'Algérie n'a pas une loi stricte sur ça. Donc, pour le moment... La valorisation, c'est-à-dire des boues pour les épander, c'est-à-dire faire l'épandage de ces boues dans les terres, par exemple, agricoles. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de réglementation. Elle est en cours.
Donc, justement, on pourrait utiliser cette matière première pour pouvoir booster l'agriculture.
Mm-hmm. Oui, c'est-à-dire les utiliser comme fertilisant, c'est-à-dire ou bien... faire des composts, des composts, et on a l'intention, c'est-à-dire de travailler avec monsieur le professeur Jesus, c'est-à-dire en collaboration avec l'université de Saragossa, sur ça, sur les composts qui coûtent, on leur ramène les composts, on les ramène de l'étranger. Mais nous, on peut les faire ici, soit, soit à l'état naturel ou soit à l'état industriel.
Est-ce que vous avez été en contact avec toutes les stations d'épuration du pays pour quantifier cette matière?
Non, franchement non. C'est-à-dire, nous, lorsqu'on travaille avec...
vous êtes au niveau local, vous êtes juste à Oran.
Au niveau local, bien sûr, parce qu'on a plusieurs stations d'épuration ici à Oran. Donc on essaye d'exploiter ces stations.
Est-ce que c'est votre expérience?
Même il y a des petites stations au niveau de chaque unité des hydrocarbures dans le pôle industriel d'Arzeux. Donc il y a plusieurs, donc on essaye de les valoriser. Par exemple, on utilise les boues huileuses, par exemple, dans le domaine de la cimenterie, c'est-à-dire les boues pour faire du ciment et l'huile que contient cette boue, c'est-à-dire sert comme fuel. D'accord. Comme fuel, c'est-à-dire comme énergie.
C'est une expérience appelée à être généralisée à travers tout le pays?
Ben, pour le moment, reste sur à la bibliothèque.
En attendant preneur, un investisseur potentiel.
On attend un investisseur potentiel, c'est-à-dire parce que nous, on fait de la recherche.
Oui, après, il faut qu'elle soit appliquée.
Voilà, elle doit être appliquée. Voilà.
Eh bien, le message est lancé. Merci.
Je vous assure qu'on a fait pas mal de choses. C'est-à-dire, on a essayé de faire des briques. On a
avec cette boue,
on a fait de la faïence, c'est-à-dire des dalles de sol aussi.
Elles sont résistantes.
Ouais, elles sont résistantes. On a fait tous les essais mécaniques de résistance et tout ça. Donc, c'est-à-dire, ça a donné de bons résultats.
Eh bien, l'appel est lancé.
Une fois en 2012, j'ai présenté ça au niveau d'une conférence ou bien d'un congrès international à Agadir. Donc, il y avait un Français, un chercheur français, un enseignant qui m'a posé la question de toxicité. Donc, à l'époque, je n'avais pas fait les tests toxicologiques. Donc, lorsque je suis arrivé en Algérie, donc, j'ai essayé de les faire où les matières ne sont pas toxiques. Voilà.
Déjà. Voilà. Merci beaucoup, professeur Bundalawa Ablaziz, pour votre participation. Merci à tous nos invités.
C'est moi qui vous remercie.
Merci à tous nos invités pour leur participation au débat. Et merci à Richard Hammer pour avoir piloté cette émission. Vos réflexions et commentaires sur la page Facebook de l'émission. À vendredi prochain.